Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui gratte, là où le management chatouille. Ici, nous abordons les enjeux, les risques et les opportunités de notre quotidien de manager d'équipe. Nos émotions, nos raisonnements, nos initiatives, nos victoires et parfois nos revers. Dans ce deuxième épisode, nous allons franchir des frontières en échangeant avec Thierry Fougère. Thierry a managé en France, en Belgique et en Asie. Tout ce parcours après avoir étudié aux États-Unis, contrôleur de gestion de formation, il est devenu au fil des expériences un manager interculturel aguerri. Aujourd'hui, Thierry partage ce que ses années à l'international et particulièrement au Japon lui ont appris sur les autres et sur lui-même. Et si manager ailleurs, c'était surtout apprendre à redéfinir sa relation aux autres. Thierry, bonjour.
Bonjour Benoît.
Thierry, tu as managé dans des environnements très différents. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit « là, je ne comprends plus rien » ?
Ah oui, tout à fait. Il faut bien un début à quelque chose. Donc là, j'ai une culture et une mentalité tout à fait différentes puisque des Japonais, des Asiatiques, puisque j'ai une culture latine, ma maman étant italienne. J'ai grandi, j'ai vécu aux États-Unis pendant une dizaine d'années, j'ai fait des études là-bas. Et donc, arrivé en Asie, c'était un petit peu plus compliqué. Et le premier jour dans mon entreprise, le président de la société Wagonlit Japon m'a mis tout de suite très à l'aise. Il m'a mis en face de lui à son bureau, m'a déroulé un grand organigramme de tout le groupe. Il s'est levé et il m'a montré où était sa position sur l'organigramme. Voilà. En gros, j'avais compris, il n'était pas la position. Voilà, lui était là, toi, tu es où ? Donc, et comme tu ne peux pas avoir son niveau puisqu'il est président, tu es forcément, entre guillemets, soumis. Et donc, j'ai bien compris que là, il y avait tout de suite une importance de la hiérarchie, du respect, de l'autorité par rapport à sa position. Donc, je me suis dit, jamais désavouer, ne pas faire perdre la face, entre guillemets, etc. Donc, c'était vraiment déjà une première approche.
Tu avais parlé une fois qu'il était sur un siège réglable.
Voilà, c'est ça. Donc,
quand tu t'es adapté, finalement, jusqu'à l'observation de ces détails-là, mais... Où est-ce que tu as été puisé dans ton expérience, dans ton éducation ? Qu'est-ce qui t'a servi justement à pouvoir t'adapter à des contextes manifestement différents de ceux que tu connaissais auparavant ?
Alors en fait, mon éducation m'a toujours appris à être loyal, respectueux. Donc à partir du moment où je suis chez quelqu'un, et là j'étais au Japon dans ses bureaux, donc je fais comme il veut. Par exemple, donc l'anecdote du siège, c'était ce fameux jour, il s'est levé de son siège. Alors moi, j'étais sur une chaise, hein, une chaise bien en bois, bien ancrée au sol, etc. Et lui, il avait un beau fauteuil avec l'appui-tête, avec les accoudoirs, etc. Et il était bien entendu plus haut que moi, déjà pour asseoir une certaine autorité. Et il s'est levé et m'a pointé du doigt. Donc là, je me sentais également un petit peu inférieur, entre guillemets. Donc là encore, est-ce qu'il y avait une forme de soumission ou de volonté de vouloir me faire comprendre que c'était lui le chef ? Je ne sais pas.
En tout cas, c'était dans l'analyse. Tu n'as pas appliqué ton modèle, ta culture face à celle-ci, quoi, face à l'autre.
C'est impossible de transposer un modèle. Si tant est qu'on peut nous apprendre des théories, on peut nous apprendre des pratiques, que ce soit en cours ou dans d'autres périodes de management de notre vie. Mais là, on est en plus à l'étranger, donc il y a une valeur sociologique qu'il faut prendre en compte.
Mais pour autant, on peut être tout à fait attaché à nos valeurs, à notre cadre et considérer que c'est ce qui est juste, en fait, ce qui est normal, ce qui doit être. Mais donc, du coup, comment on fait pour ne pas dépendre de ce que l'on pense de soi-même et du coup, ne pas réagir, ne pas être en réaction par rapport à l'autre jusqu'à peut-être le... Bon, là, il y avait un enjeu aussi, je pense. Hein, tu étais en prise de
poste. Tout à fait. J'étais en petite fosse là-bas.
Ça aide à glisser ça complètement, je pense.
J'étais envoyé par la présidence de Wagonlit Japon, qui était une émanation du groupe Accor. Donc, j'ai été envoyé là-bas. Donc, voilà, il fallait déjà que je sois bien intégré. Donc, je ne pouvais pas répondre bille en tête directement. À lui dire, maintenant, ici, je suis envoyé par les patrons d'Europe. Donc, on se calme. Donc, je ne pouvais pas. Mais c'est toujours la résilience, c'est toujours l'écoute. Comme disait Confucius, on a deux oreilles. C'est pour écouter deux fois plus qu'une bouche pour parler. Donc, et je rajouterais même qu'on a aussi deux yeux. C'est pour regarder ce qui se passe autour de nous.
Certains disent que le management, c'est une posture. Alors justement, on vient de commencer à aborder la question. Hein. Mais quand la culture change, la posture, elle tient ou elle vacille ?
Comment tu considères ce mot posture déjà aussi?
Alors, déjà la posture managériale, oui, elle existe. Il y a un socle commun entre tous les éléments. Hein, il y a des choses qui sont immuables. On a une personnalité, on a malheureusement on a une aura, on a une présence physique entre guillemets. Donc ça existe. On peut pas changer. On a une personnalité, on a un caractère, on a une façon d'être. Et c'est notre culture qui gère tout ça. Ça vient de notre éducation. Donc ça, c'est difficile pour nous de changer. Par contre, on peut s'adapter. Personnellement, j'ai toujours pratiqué un management empathique. C'est-à-dire, j'ai toujours tenu compte de la langue qui veut dire beaucoup. Est-ce qu'on est « macho » entre guillemets, certains diront. Est-ce qu'on est dans le patriarcat? Est-ce qu'on a le patrimoine culturel? On sait que les Japonais ont beaucoup d'influences religieuses là-dessus. Les coutumes, les arts, avec leurs temples, ils vont tout le temps au temple. La famille, quels sont les acteurs culturels? Donc, on a plein d'éléments comme ça, qui sont identifiés par ces choses.
Et est-ce que tu as dû désapprendre certaines choses? On parle aussi de comportements réflexes parfois, hein, dans la manière de saluer, rien que cette façon de saluer. Est-ce que tu as dû désapprendre certaines choses ou même peut-être renoncer à certains réflexes? Cette phrase est étonnante en soi, mais en elle-même. Mais est-ce que tu as appris à... Oui, est-ce que tu as pu renoncer à certains comportements réflexes, culturels?
Les différents postes que j'ai eus auparavant, que j'avais eus auparavant, étaient des postes où il fallait asseoir une certaine légitimité. Et donc, la légitimité, elle s'assied par des notions, par des phrases, par une certaine posture, comme on a expliqué. Donc ça, on peut pas y déroger. Par contre, là-bas, au début, stop, il fallait faire fit tout ça. Il fallait vraiment passer à autre chose et s'inspirer de leur culture, de leur façon d'être et surtout de leur façon de faire. Sinon, on arrive dans des relations qui sont difficiles. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a aussi l'opposition des intérêts qui est à l'origine de toute négociation. C'est-à-dire que moi, l'intérêt, c'était de mettre en place ce que la direction européenne m'avait dit de mettre en place. Et l'autre intérêt de la personne, c'était que je ne marche pas trop sur ses plates-bandes, que je reste à ma place, que j'ai une relation collégiale avec lui et le management qu'il avait mis en place. Et donc, c'était différent, parce que moi, il fallait que j'impose des choses et eux, il fallait que je m'intègre. Donc, c'était deux visions différentes, dont forcément un savoir-faire différent.
C'était un jeu à plusieurs acteurs, effectivement, puisqu'il y a toi, en tant que responsable, envoyé par la direction Europe, comme tu l'as dit, et dans un contexte, et donc des enjeux aussi, certainement, parce qu'on parle beaucoup de la dimension culturelle, mais la question des enjeux propres au marché et au macro-environnement du Japon sont naturellement spécifiques, c'est une évidence. Donc, c'était un jeu d'échecs.
Alors, c'était un jeu d'échecs, surtout que c'était le monde des voyages. Et à l'époque-là, il n'y avait pas encore trop l'avènement d'Internet, et on sait que les voyages, ce sont des secteurs d'activité où les marges sont vraiment sur le volume. Elles se font sur le volume, donc il ne faut pas se louper. Là, j'étais au Japon, mais du Japon, je rayonnais sur la Chine, l'Indonésie à Jakarta, la Thaïlande, etc. Donc, il fallait vraiment qu'on puisse capter toute cette clientèle qui était là et donc s'intégrer à chaque fois dans des univers différents. Donc, il fallait vraiment comprendre les émotions des gens, partager leur vie, partager leur culture. Avec les collègues, c'est sortir, ils savent faire la fête, hein. Ils ont un doux aigu de la fête, des sorties, la boisson, les amis aussi, voilà. Donc, il fallait s'occuper de tout ça.
Voilà. Et la boisson, c'est une variable, alors évidemment, on rappellera ici qu'on consommait avec modération, évidemment, mais c'est une variable dans les négociations.
Oui. Alors, dans les négociations, ils sont un peu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut, il faut aller dîner. On ne peut pas refuser un dîner. On ne peut pas refuser un déjeuner. Ça fait partie de la confiance. Si on ne va pas avec eux, pourquoi on ne va pas avec eux? On n'a pas le droit de ne pas aller avec eux. Il faut vraiment faire attention. Et la boisson, ça fait partie de ça. Ce sont des grands épicuriens. Mais ils n'ont pas trop de limites à ce niveau-là.
En tout cas, via la boisson ou via autre chose, je parlais de le fait de ne pas refuser un repas. Il n'y a clairement pas de relation possible s'il n'y a pas eu au préalable une identification, c'est-à-dire à minima le partage avec quelques valeurs.
Tout à fait. La confiance, c'est ça. C'est partager des moments de vie, partager des moments conviviaux. On ne peut pas commencer à faire des affaires ou même imposer des choses ou se faire écouter, tout simplement se faire écouter si on n'a pas partagé avec eux des moments.
La relation ne peut pas être simple intention, c'est une construction qui passe par l'identification de l'autre.
C'est tout à fait une construction et c'est un long processus. En Asie, c'est un long processus.
Dans le management interculturel, le plus grand piège, c'est quoi selon toi ?
Le plus grand piège reste selon moi de vouloir transposer sa culture et surtout de vouloir l'imposer. Voilà. Je m'explique. Les codes sont différents. Forcer quelqu'un à accepter et à communiquer, c'est quelque chose de très difficile selon ses propres principes et incohérent avec l'acceptation de l'autre. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi j'imposerais ma façon de penser, ma façon d'être, ma façon de manager à des gens qui ont une culture différente. Ils ne comprendraient pas et forcément, ça serait un conflit. Or, on sait très bien qu'au Japon, c'est vraiment l'évitement du conflit à tout prix. Un désaccord, on ne le manifeste pas comme ça, ça reste dans la discussion, en parallèle avec la France, avec nos méthodes à nous, où on peut être clair dans les discussions et expliquer un désaccord. Oui. Là-bas, il faut l'amener, le désaccord, il faut expliquer le pourquoi, et ça vient par une discussion. Et il faut expliquer de variantes et non pas de désaccords. Voilà.
C'est vrai que dans la négociation, la culture du consensus, c'est un principe. Toutefois, dans la dimension interculturelle, la dimension consensuelle de la négociation est sans doute et même très certainement encore plus importante. Et la question de la confiance, parce que finalement, quand les codes ne sont pas les mêmes, tu l'as construit comment cette confiance ?
La confiance, c'est vraiment un long process. Il faut juste leur expliquer qu'il existe une alternative, qu'il existe des processus différents et qu'on souhaite les partager avec eux. En fait, il faut leur faire dire ce pourquoi on est venu. C'est à nous de faire suggérer pour qu'ils le disent. Et donc forcément, comme ça vient d'eux, ils vont l'accepter. C'est ça. Alors, il faut ne pas avoir trop d'ego, pardon, je te coupe. Il ne faut pas avoir trop d'ego, justement, pour pouvoir accepter ça. Quoi. Mmh. Ça ne vient pas de nous, et c'est pas grave. Mmh.
Oui, finalement, laisser la liberté à tes interlocuteurs de considérer par eux-mêmes ce qui est bon, juste et nécessaire pour eux-mêmes, c'est déjà avoir fait un grand pas vers l'acceptation de ce que tu leur proposes, quoi.
Tout à fait, c'est ça.
Puis il y a la question de la face aussi en Asie, hein. L'honneur, hein, on parle de la face.
Alors ça c'est il faut tout doit être clair. Quand on donne sa carte, sa carte de visite, c'est quelque chose de précieux. On la donne avec les deux mains. On ne se prosterne pas, mais on baisse la tête. C'est vraiment un signe de reconnaissance. Il y en a forcément. Donc, il ne faut pas perdre la face. Il ne faut pas leur faire de la face. Pourquoi ? Parce qu'on a des malentendus, parce que toutes nos négociations et nos conversations étaient en langue anglaise. Et donc, par conséquent, c'était plus simple, mais il n'y avait pas de maîtrise des nuances. Et donc, il fallait faire attention à ces malentendus. Eux, comme moi, l'anglais n'est pas notre langue maternelle. Et donc, il y a forcément des nuances, des subtilités qu'on ne maîtrisait pas. Il fallait regarder qui a de la légitimité de la parole, qui a l'écoute. Encore une fois, il faut beaucoup observer, décoder, reformuler et leur faire proposer. Voilà, et c'est un peu ça la face. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent proposer. Ne leur jamais leur dire que, comme c'est une décision collégiale, quand vous êtes en réunion, si le président parle, ne jamais dire « Monsieur, je pense que vous avez tort ». Parce qu'il a forcément des collaborateurs et ça ne plaît pas. Voilà. Donc, il faut reformuler tout ça après. Mais c'est très, très important.
L'importance de savoir poser des hypothèses hein, plutôt que d'affirmer des prétendues certitudes.
On ne commence pas à manger tant que le responsable, entre guillemets, commence à déjeuner. Voilà, on suit les règles et on parlera business ou management ou tout ce qu'on veut à la fin du repas. Donc, attention à l'alcool parce qu'ils peuvent être un peu malins à ce niveau-là.
Quand on se forme au management, on cherche souvent des outils, des méthodes. Mais dans ton expérience, ce qui fait que tu as été et tu es en capacité d'agir, ce sont les outils ou la personne que tu es ? Je ne te cache pas qu'en posant la question, j'ai moi-même déjà la réponse. Mais la question que je te pose là est justifiée aussi de l'offre qu'on propose hein, chez Doran Formation. Mais effectivement, donc, les outils, on ne va pas les décrier, bien sûr. Ils sont utiles, mais l'outil prend le joint de la main, comme le disait un célèbre philosophe. Donc, outils, les outils, ta personne, voilà. Qu'est-ce qui finalement garantit ta capacité à agir ? Les deux peut-être ?
Alors, les outils du management, tels que les méthodes qu'on nous apprend en formation, ça sert vraiment de base. Ça nous apprend ce qu'est le management et quels sont surtout les buts et les objectifs du management. Mais c'est surtout et avant tout, à mon sens, une base technique. Quand on est en France, ce n'est pas un problème puisque nos interlocuteurs sont des gens d'une culture similaire. Disons qu'on a vécu dans un même environnement, donc on peut tous se comprendre. Par contre, dès qu'on est à l'étranger, on a une approche psychologique qui est beaucoup plus importante. Comme tu le disais tout à l'heure à juste titre, il ne faut pas faire de la face, il faut discuter, ça prend du temps. Une réunion d'une heure, ça n'existe pas au Japon. Si, ou alors il va y avoir 10 fois une heure sur 10 jours, alors que chez nous, au bout d'une heure, on nous dit déjà, bon, on est arrivé où, on fait quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est enseigné, oui, et qu'elles sont enseignées, ces outils, mais ça s'acquiert beaucoup sur le terrain. Alors après, il faut aimer. Il y a des prérogatives au management. Management, c'est diriger, ça peut être aussi gouverner, c'est prévoir, hein, disaient certaines personnes. Mais le plus important pour moi, c'est déjà d'aimer l'homme avec un grand H, aimer les relations humaines, la richesse de la discussion préalable et des entrées en relation. Je pense qu'il faut aimer ça. Voilà. Et c'est des discussions que naissent les solutions, bien entendu. Bon, je pense que le préalable, c'est ça. C'est aimer les personnes, aimer converser, s'entretenir.
Une médaille ayant toujours de face, on pourrait aussi considérer qu'aimer aimer l'homme est comme condition première au management. Alors, tu sais, on se connaît il y a quelques années que je souscris complètement à ce genre d'affirmation. Aussi, la deuxième face de la médaille, c'est peut-être le risque de dépendre finalement de la relation à l'autre et développer un lien de dépendance affective, tel que je l'appelle, qui peut-être dégrader notre capacité à nous remettre en question ou même en cause. Et donc, nous laisser entraîner dans des situations où finalement, on perdrait peut-être la main.
Ah, le plus difficile, c'est vrai que c'est bâtir une relation, bâtir un... Alors, l'affectivité, elle est là ou elle n'est pas là, c'est pas grave, mais après, pouvoir s'en détacher et pouvoir faire la différence entre une relation professionnelle et des liens affectifs qu'on pourrait avoir. Ça, c'est vrai que c'est assez difficile. En Asie, c'est un but, donc c'est quelque chose qui se fait, c'est pas un problème, c'est vraiment pas un souci, on peut très bien... un peu comme chez nous quand même. Hein. Par contre, les liens de subordination, c'est un peu difficile. Chez nous, si demain on fait partie d'un même service et qu'il y en a un de nous qui devient chef, c'est un peu plus compliqué à asseoir sa légitimité et voilà, faire passer des choses.
Et pourtant, chez nos voisins allemands, pour y avoir travaillé quelques années, toute la semaine, c'était Erdora, et le vendredi après-midi, on allait boire des bières au Biergarten. Et le lundi matin, à 6h30, c'était à nouveau le doigt sur la couture du pantalon. Donc, c'est vrai que d'un pays à l'autre, sans forcément aller très loin, on peut avoir à reconsidérer ce lien affectif. On l'entend bien sûr d'un point de vue professionnel et dans le management, mais en même temps, on a besoin de cette adhésion, on a besoin de se reconnaître l'autre, on a besoin de vivre des choses, des émotions, voilà, on a besoin de ces émotions pour engager une démarche rationnelle, mais en même temps, on ne doit pas en dépendre, voilà. Donc c'était le sens de ma question. Quels sont les points de management qui participent au succès ?
Les premiers éléments sont vraiment les spécificités culturelles, je dirais, de l'Asie, comme on l'a dit tout à l'heure, donc des tendances communes qui se dégagent. On valorise le groupe plutôt que l'individu. En Asie, c'est vraiment une chose qui est très importante. On valorise le groupe plutôt que l'individu. C'est toujours le confucianisme. C'est la philosophie, c'est leur religion. C'est l'importance de l'harmonie dans les relations interpersonnelles. On évite la confrontation directe. On essaye de trouver des solutions qui préservent la cohésion. Très important. La hiérarchie, bien entendu, on en a parlé. Le respect de l'autre, l'autorité. Le sens de la face. Bon, ça s'appelle KO au Japon. C'est vraiment, si on fait perdre la face à quelqu'un, c'est un échec majeur dans les cultures et on embarrasse la personne en public. Donc ça, il faut vraiment éviter ce genre de petits soucis. On évite la critique directe, évidemment. Et tout ce qui est feedback, ça prend du temps. Que dans une discussion, si on a des moments de silence, nous, ça peut être gênant. Alors que eux, c'est une prise de réflexion. Et donc, on va arriver un petit peu plus tard. Donc, le feedback est donné de façon indirecte. Le non-verbal est quelque chose de très important, c'est quelque chose d'implicite. On utilise beaucoup de sous-entendus et de formulations polies. Là-bas, ils s'excusent, ils aiment bien en faire un peu plus que chez nous, mais c'est leur culture, c'est comme ça. Il faut réussir dans le management et avoir des négociations fiables avec des connexions fiables. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps, il faut sortir avec les personnes, il faut les côtoyer, il ne faut pas avoir peur, mais c'est grâce à ça qu'on établit la confiance et donc des connexions fiables. Et puis, le rôle des cérémonies et du rituel, la cérémonie du thé, les banquets, les cadeaux d'affaires, très important. Voilà, on vous offre des cadeaux, il faut prendre des cadeaux, vous ramener des cadeaux. C'est un signe de sérieux et de professionnalisme que de respecter les traditions, bien entendu. Voilà, je pense qu'avec ça, déjà, on a une approche.
Dans les formations que l'on propose pour accompagner les managers, on travaille très souvent le rapport à l'autorité, le rapport au temps et le rapport à l'argent. Et vraiment, dans tout ce que tu exposes depuis tout à l'heure, on se retrouve sur ces trois axes. Il y a une citation en anglais où tu parles de Rome,
yeah,
et que tu aimes bien et que je trouve intéressante.
C'est en gros, c'est « do in Rome like Romans do », c'est « on fait à Rome comme font les Romains », c'est-à-dire qu'on épouse la culture, on va là-bas, on est chez eux, il faut vivre comme eux dans la mesure du possible. Une fois qu'on est entre nos quatre murs, dans notre chambre d'hôtel ou notre appartement, on fait ce qu'on veut, mais c'est très important de respecter la vie des citoyens japonais en l'occurrence.
Si tu devais donner un seul conseil à un manager qui va prendre un poste dans un contexte interculturel, ce serait quoi ?
Alors déjà, on est petit, ensuite on grandit, on a une progression qui est là. Il faut faire une introspection. Il faut vraiment faire de l'introspection. Si on n'a pas les résultats escomptés, il faut vraiment faire de l'introspection. Il faut respecter nos interlocuteurs. Sinon, toute la discussion sera vaine et le projet n'aboutira pas. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on doit respecter ces façons de conduire des entretiens, des réunions. Les déjeuners, ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on est à l'étranger, on doit s'adapter. Ça, c'est vraiment le keyword, c'est la base. Pour l'Asie, ce que je le répète, mais si on a deux oreilles, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Donc, laisser les autres s'exprimer et surtout observer donc avec nos deux yeux. Je pense que c'est ça.
Écouter pour comprendre, plus qu'écouter pour
comprendre. Écouter pour comprendre, c'est tout à fait ça.
Très bien. Thierry, un grand merci pour ce partage sans filtre. Merci d'avoir la nuance de l'humanité et du vrai dans ces réalités du management multiculturel. Je rajoute un petit mot pour remercier le campus La Salle. Nous enregistrons ce podcast sous des arbres. On est très bien placé, le campus La Salle à Metz, qui forme jusqu'au Bac plus 5 dans les filières marketing communication. Donc, merci au campus La Salle, à M. Chevrier et à Mme Ruzuro d'avoir accepté que nous enregistrions ce podcast ici. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité, un nouveau regard et toujours plus pour de vrai. Merci, à bientôt.